c'est arrivé demain.
Bonjour Michel Kazatchkine.
Bonjour.
Je viens de le rappeler, vous avez été l'une des figures de la lutte contre le sida et occupé de hautes fonctions internationales dans le domaine de la santé. L'un des aspects de la crise que nous vivons, c'est qu'il n'y a pas eu de stratégie mondiale. Les États ont agi en ordre dispersé avec des mesures différentes et souvent avec un temps de retard sur le virus. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, c'est quelque chose d'absolument frappant. Pour chacun de ces pays, le monde font face à une gigantesque crise sanitaire. Et puis en même temps, on est en présence d'une sorte de cacophonie où chacun agit de son côté, souvent dans une certaine panique parce que les choses sont prises avec retard. Chacun prend ses décisions. L'un décide de fermer les frontières un jour, l'autre décide de les fermer plus tard. L'un décide de fermer les frontières uniquement sur les vols transatlantiques venant d'Europe sans fermer ceux qui viennent de Grande-Bretagne. Les pays entrent en compétition pour acheter des masques et les pays en développement, quelque part, restent, me semble-t-il, pour l'instant, dans une sorte de stand-by. La solidarité internationale ne se mettant pas en route alors qu'elle est essentielle à mettre en route. Contrairement à ce qu'on avait vu dans les années SIDA. Donc il y a un contraste ici assez frappant. D'une part, un monde qui se mobilise ensemble pour lutter contre une épidémie mondiale, le SIDA, qui, je rappelle, a fait plus de 35 millions de morts sur les 30 dernières années. Ouais. Et puis, un monde qui est en ce moment en ordre totalement dispersé.
Est-ce qu'on peut dire que le virus a été très rapide et le risque sous-estimé ?
Oui, l'une des singularités de ce virus, c'est qu'il se propage extrêmement rapidement. Et c'est pour cela que chaque jour compte et que la plupart de nos pays d'Europe occidentale ont pris les mesures de confinement relativement tard, et en tout cas à un stade où les stratégies que l'OMS conseille, les stratégies qui ont été efficaces à Singapour ou Hong Kong ou en Corée, c'est-à-dire les stratégies de détection des personnes positives et de confinement des personnes positives plutôt que de confiner tout le monde, il était trop tard pour les mettre en œuvre.
Oui, c'était effectivement l'une des injonctions de l'OMS. Assez tôt, tester, isoler les personnes contaminées. Vous le rappelez, ça n'a été fait que dans quelques pays. On peut dire que les États ont été assez généralement défaillants.
Ça s'est fait dans quelques pays qui, faisant attention à cela, avaient une mémoire vive du SARS. Souvenez-vous, les pays que je viens d'énumérer, même le Canada, sont des pays qui avaient une mémoire du SARS et qui se sont mobilisés immédiatement. Dans nos pays, cette stratégie du test, bon, venons en France, elle a été appliquée au moment où l'on avait détecté ce cluster au Contamine Montjoie, souvenez-vous. On avait isolé ces personnes et le village des Contamines n'a pas été infecté par le virus plus que d'autres. Mais au moment où la France a véritablement pris conscience de l'épidémie, on était déjà à un stade où le virus se transmettait à ce point rapidement. Il était dans un stade que nous appelons de transmission intercommunautaire il était à ce moment-là, inutile de détecter telle ou telle personne positive, puisque alors qu'on en détectait une, il y en avait des dizaines d'autres qui se trouvaient infectées en même temps.
Le manque de tests, c'est un défaut d'anticipation, Michel Kazatchkine, et c'est une carence cruciale dans la lutte contre le virus.
Oui, c'est une carence. C'est à la fois un manque d'anticipation. C'est à la fois la conséquence de la délocalisation de l'industrie et en particulier de ce que tous les principes qui servent à fabriquer des médicaments ou des réactifs viennent de pays d'Asie qui avaient eux-mêmes bloqué leurs exportations et arrêté leur production pendant quelque temps. Et c'est quelque chose dont on a maintenant absolument besoin parce que pour gérer les prochains mois, gérer. Je n'aime pas trop l'expression sortir du déconfinement. Je préfère qu'on parle de la gestion de l'épidémie dans les prochains mois, qui sera une gestion réfléchie, raisonnée, dont j'espère beaucoup qu'elle sera plus ordonnée et coordonnée à l'échelle européenne. C'est pour cette gestion-là, on a absolument besoin de tests, mais regardez ce qui se passe. Chaque région commence à en fabriquer, les uns commencent à utiliser tel ou tel test, les uns commencent à tester, les autres ne testent pas. Il nous faut absolument reprendre nos esprits et nous coordonner tant à l'échelle nationale que, je le répète, à l'échelle européenne. Il est illusoire de penser que ce qui se passera en France ou ce qui se passera en Italie ou en Allemagne ou en Belgique ou ici en Suisse où je me trouve n'influera pas ce qui se passe chez les voisins.
Vous avez parlé tout à l'heure de la fermeture des frontières et des décisions qui ont été prises de façon complètement erratique, pays par pays. Parmi les préconisations de l'OMS qui n'ont pas été comprises et donc pas vraiment respectées, la non-fermeture des frontières. Pourquoi cette recommandation de l'OMS ?
Cette recommandation est basée sur deux considérations. La première, c'est que dès lors que vous êtes à un stade de l'épidémie où la transmission se fait dans la communauté à toute vitesse, comme nous l'évoquions il y a quelques instants, qu'il y ait 5 ou 10 personnes ou 100 personnes qui rentrent sur le territoire potentiellement infectées sans le savoir, ne change pas grand-chose à la situation. Et la deuxième considération est que ce que l'on a vu dans l'épidémie d'Ebola, et là je parle de pays d'Afrique, c'est que pour un pays, singulièrement un pays en développement totalement dépendant de l'extérieur pour une grande part de son économie, la fermeture des frontières peut avoir des conséquences économiques absolument tragiques. D'où la recommandation de l'OMS. Et quant à la fermeture, si j'ose dire, sélective des frontières, comme l'a fait le président Trump, pour moi c'est une mesure de pure démagogie politique.
Parlons encore de l'OMS qui, dans cette crise, est critiquée pour son manque de réactivité, d'autorité ou de capacité à se faire entendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Alors, il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Il est vrai que l'OMS a cafouillé un petit peu au début de l'épidémie, c'est-à-dire dans la première quinzaine, disons la première moitié de janvier. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est une époque où la Chine n'avait pas encore vraiment transmis l'ensemble des informations, et en particulier ce qu'elle savait de la transmission interhumaine du virus. Mais dès la deuxième quinzaine de janvier, et si vous allez sur le site de l'OMS, vous verrez que l'OMS a régulièrement mis en avant des recommandations pour les pays du monde, ces recommandations sur l'utilisation des tests, sur les gestes barrières, sur la façon de prévenir la transmission de l'épidémie. Elle a mis en route des essais thérapeutiques multinationaux à très grande échelle pour tester les médicaments dont on aura bientôt les résultats, en même temps que ceux des essais qui ont commencé ensuite. Et l'OMS reste pour la très grande majorité des pays du monde la référence. Le problème, c'est que l'OMS n'a pas de pouvoir. Elle émet des recommandations. Et les pays sont quelque part, bien sûr, libres de prendre leurs décisions, que ces décisions aillent à l'encontre ou non de l'OMS. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il existe un traité international que tous les États, dont la France, ont signé en 2005, après le SARS, quand le monde s'est dit « il faut que nous apprenions les leçons de cette épidémie ». Ce traité demande à chaque pays de se préparer en termes de surveillance, à détecter, mais aussi de se préparer à répondre à une épidémie qui aurait le danger potentiel de devenir une épidémie mondiale. Seulement 50% des pays dans le monde sont prêts environ. Et les pays qui sont prêts selon les critères actuels de l'OMS ne l'étaient pas, comme on le voit en France et en Europe occidentale, où on manque de masques, de lits de réanimation. Donc quelque part, il faut que ce système change, il faut que le monde comprenne que la santé est une priorité. Il est absolument clair que nous comprenons maintenant que c'est la santé qui, à court terme, est le plus grand potentiel de disruption de notre monde globalisé, et il faut que l'OMS retrouve de l'autorité.
Michel Kazatchkine, vous restez avec nous, on poursuit après une courte pause et vous nous direz comment vous voyez la sortie de crise. À tout de suite.
Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, mais de chez vous bien sûr, pour cette arrivée demain.
Avec Michel Kazatchkine, immunologiste, ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, comment voyez-vous la suite, Michel Kazatchkine ? C'est de la recherche médicale que viendra la solution ?
Oui, c'est de la recherche médicale qui nous permettra de mettre au point un vaccin. Un vaccin dans, disons, 18 mois, 2 ans. Je suis assez confiant sur le fait que la communauté internationale pourra fabriquer ce vaccin.
On pourra là-dessus
si vous le souhaitez.
Ce qui me rend confiant,
c'est que l'on sait que les personnes qui guérissent de l'infection à coronavirus guérissent parce qu'elles fabriquent des anticorps qui bloquent le virus, des anticorps que nous appelons neutralisants, comme c'est le cas dans la grippe, comme c'est le cas dans la rougeole, comme c'est le cas dans la rubéole et de nombreuses maladies. Donc, ce que l'on sait, c'est ce dont on a besoin pour fabriquer un vaccin. On a besoin de mimer ce que fait le virus et d'induire ces anticorps. Alors que, par exemple, dans le sida, personne n'a pu guérir spontanément de la maladie. J'entends par guérir, éliminer totalement le virus. Et c'est l'une des difficultés de la mise au point d'un vaccin dans cette maladie. Ici, nous savons ce qu'il faut faire et nous avons des antécédents. On a fabriqué un virus contre le SARS. Il est arrivé un peu tard, quand l'épidémie était déjà sur la fin, mais on a là affaire à deux virus qui sont cousins. Donc c'est ce qui me rend confiant. Et puis l'effort de recherche internationale est colossal.
Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un exemple dans le passé d'une telle conjonction de recherche, de scientifiques qui se mobilisent sur une seule maladie?
Non, mais on n'est pas dans le passé, on est dans le présent et on est dans une crise mondiale gigantesque. Il y a déjà des dizaines de candidats vaccins qui se profilent. Il y en a 2 ou 3 qui sont déjà dans les premiers essais cliniques, qu'on appelle des essais de tolérance. Et si je dis 18 mois à 2 ans, c'est pas tellement parce qu'il faut imaginer et conceptualiser des modèles vaccinaux que c'est le temps nécessaire pour mettre au point un produit, le développer et faire les essais qui permettront de prouver son efficacité. Donc voilà à peu près le délai. Et dans ces 2 ans, il va falloir gérer l'épidémie. On sortira du déconfinement dès lors que le virus aura diminué sa vitesse de circulation entre les personnes. Cette vitesse de circulation que nous monitorons, que nous savons mesurer. Et donc les gens seront moins à risque qu'ils ne le sont maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas à risque. Ce sera donc les conditions idéales pour mettre en place les stratégies dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire celle de détection d'une part des personnes positives et le confinement des personnes positives, et d'autre part la détection de personnes protégées, celles qui ont des anticorps, qui permettront à ces personnes de reprendre totalement leur activité, leur liberté de mouvement et leur productivité si elles travaillent.
Au vu de la virulence de ce virus, je reviens sur le vaccin. Quand un vaccin sera disponible, il faudra en fabriquer des quantités astronomiques pour en faire profiter la planète entière et à un coût abordable pour les pays les plus pauvres. Comment procéder ?
Oui, là, il va falloir être très créatif. Alors, en ce qui concerne la production, il y a évidemment une question, parce que s'il fallait attendre, ou s'il faut attendre, qu'on ait la preuve de l'efficacité pour commencer à fabriquer, on ajoutera encore des délais au délai. Donc, vraisemblablement, il va falloir commencer à fabriquer, alors même qu'on ne sait pas si on a la preuve absolue de l'efficacité d'un vaccin. Autrement dit, il va falloir faire des investissements très importants avec des risques. Et beaucoup de débats sont en cours, notamment ici à Genève, la capitale internationale de la santé mondiale, pour savoir comment trouver des fonds, comment mettre ensemble des fonds à risque pour permettre cette anticipation. En ce qui concerne les prix, c'est évidemment une question fondamentale. Et là, le sida nous a apporté des leçons avec des mesures, des mécanismes internationaux de financement qui ont été mis en place et qui ont permis de diminuer considérablement les prix. Souvenez-vous, au début, le traitement du sida coûtait 10 000 euros par an et par patient. Il coûte maintenant moins de 100 euros par patient et par année. Ces mécanismes, là aussi, commencent à être débattus à Genève. Et j'espère qu'il y aura, et j'appelle à ce qu'il y ait, à nouveau des discussions multilatérales de toute la communauté internationale. Ce n'est pas simple dans le contexte politique actuel, en particulier entre la Chine et les États-Unis, mais pour que les droits de propriété intellectuelle soient cédés et que l'on considère ce vaccin comme ce que nous appelons un bien public mondial auquel chacun devra pouvoir accéder où qu'il habite et quels que soient ses revenus.
C'est-à-dire qu'il faudra une sorte d'instance mondiale, en tout cas une mise en commun des ressources et des savoirs scientifiques.
Alors, il va falloir la mise en commun des savoirs scientifiques, je pense qu'elle va arriver. Il va falloir une sorte de mise en commun entre parenthèses des brevets, et il va falloir un fonds mondial pour financer l'achat et la distribution de ces vaccins.
Merci beaucoup Michel Kazatchkin, merci de nous avoir répondu en direct ce matin depuis Genève. Merci à vous.
Merci à vous.